À tous, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le livre des psaumes et on va prendre le psaume 91, un psaume qui nous parle tout simplement, finalement, de la volonté de Dieu quant au fait que nous soyons à l'abri, que nous soyons à l'abri du danger. Lisons-le ensemble. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il dominera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puis, ce qu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Amen. Il y a une phrase qui m'interpelle particulièrement. Il y en a beaucoup sur lesquelles on s'est souvent arrêté. Mais là, vraiment, cette phrase m'interpelle particulièrement cet après-midi. Vous avez vu le verset 15 ? Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Moi, quand je lis ça, ça me réconforte quand même. Ça me fait penser à cette situation, vous savez, où on voit les amis de Daniel dans la fournaise. Et ils sont trois. Et pourtant, quand les gens d'extérieur regardent à l'intérieur, ils ne voient pas trois personnes, mais ils en voient quatre. Ils voient un ange. Et alors qu'ils sont rentrés dans la fournaise liés, ils regardent dans la fournaise et ils voient quatre hommes, et quatre hommes qui n'ont aucun lien. Quatre hommes libres, qui sont pourtant dans la fournaise. Mais c'est là toute la sécurité qu'a le chrétien, celui qui un jour a décidé dans son fort intérieur de faire du Seigneur celui qui allait régner sur sa vie. En d'autres termes, on pourrait aussi dire celui qui a fait du Seigneur celui qui allait le protéger toute sa vie, son refuge, son abri. On peut être éprouvé. Je ne dis pas qu'un chrétien n'est pas éprouvé. Je ne dis pas que, alors que nous avons confié notre vie à Dieu, eh bien, notre vie sera couverte de pétales de rose du début jusqu'à la fin. On continue de marcher dans la vie. Et notre vie est faite de moments agréables et d'autres moins agréables. Mais l'important, comme on peut le lire aussi dans le psaume 23, c'est qu'on a cette assurance que le Seigneur est lui-même avec nous. Et c'est là une assurance totale qu'on a. Et ici, dans ce psaume 91, ce premier verset nous rappelle vraiment l'importance. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce simple verset devrait suffire à nous convaincre sur le fait que si on veut vraiment, si on veut connaître le repos, si on veut connaître vraiment cette situation que vit finalement un enfant qui n'a pas à se soucier des choses de la vie, un enfant qui est sous l'abri de ses parents. Et finalement, l'abri, de quoi s'agit-il ? De la responsabilité de ses parents. Ce sont les parents qui s'occupent de leurs enfants. Ce sont les parents qui s'engagent à la bonne santé de leurs enfants, au fait qu'ils soient bien nourris, qu'ils soient bien habillés, qu'ils soient bien éduqués. C'est un abri, en quelque sorte, pour l'enfant. Parce que ce sont des choses... Il n'a pas à s'en soucier. Il est, de ce point de vue, dans un repos total. Il se soucie d'autre chose. Et en ce qui nous concerne, eh bien, on peut se mettre à l'abri. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la responsabilité, si je me mets dans une position d'un enfant vis-à-vis de ses parents, elle est la même. Ça veut dire que je suis sous l'abri de Dieu, l'abri du Très-Haut. Ça veut dire que c'est lui qui prend la responsabilité de certaines choses sur ma vie. C'est lui qui va s'occuper, comme on le lit dans la parole, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi ? Parce que lui-même prend soin de nous. Et celui qui a confié sa vie à Dieu, eh bien, il a ce bonheur, vraiment, de savoir que Dieu lui-même s'occupe de lui. Comme je disais précédemment, Dieu donne à sa manière. Nous, quand on donne quelque chose, on s'attend toujours à avoir un retour. Ça, c'est la manière des hommes. Mais le Seigneur Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Lui, il donne avec un désintéressement total. Il donne à la manière de Dieu. Il n'y a que lui qui peut donner comme ça. Et c'est comme ça qu'il donne. Il nous aime de la même manière, un amour complètement désintéressé, au point qu'il nous dit, je serai moi-même avec lui dans la détresse. Non pas qu'on sera épargné de certaines détresses, de certains moments difficiles, mais qu'on aura une présence qui va nous garantir un repos au sein même de la détresse. Un repos, une paix intérieure, quand bien même ça souffle à l'extérieur. On a aussi, à travers ce simple verset, l'idée que la détresse peut nous faire du bien. Elle peut nous être nécessaire. Elle peut être quelque chose que Dieu permet parce que derrière on va grandir. On va pouvoir le voir à l'œuvre. Parce que s'il dit, faut, quand on réfléchit finalement, le fait qu'il soit avec nous, quand on repense à cette affaire avec les amis de Daniel qui se retrouvent dans la fournaise, ils y étaient dans la fournaise, on est tous d'accord. Seulement, le feu n'a eu aucune emprise sur eux. Aucune. Comme ils n'avaient même pas une odeur de brûlé. Donc la présence de Dieu, quand même, elle est intéressante dans la fournaise. Parce qu'elle leur épargne de la souffrance même de la détresse. Elle leur épargne la souffrance même de la fournaise. Donc le chrétien, il se retrouve dans une fournaise, il se retrouve dans une situation peut-être qui devrait être difficile, mais comme Dieu est là, comme il vit avec Dieu à ses côtés, Dieu lui-même qui s'engage à être auprès des personnes éprouvées, finalement, la détresse n'en est pas une. Et d'ailleurs, on voit bien que j'aurais peut-être pu le lire, ce passage de Daniel, mais ils discutaient même avec la personne. Ils étaient en train de parler, en train de partager. Ils avaient au sein même de l'épreuve quelque chose qui finalement leur faisait du bien. Et la présence de Dieu aux côtés du chrétien, c'est le mieux qu'on puisse avoir. Parce que c'est une garantie totale de sécurité, une garantie totale du fait que même si on ne maîtrise pas les éléments extérieurs, le fait que Dieu lui-même se soit engagé pour nous, eh bien, c'est une assurance, c'est un repos total. Et c'est la grande différence entre quelqu'un qui connaît Dieu jour après jour, qui a compris la nécessité absolue, le grand intérêt, je ne sais pas comment le dire, de faire de Dieu son Seigneur, et pas seulement son Sauveur, de faire de lui celui en qui on décide de tout abandonner, celui en qui nous allons faire confiance totalement, celui à qui nous avons décidé d'obéir, d'être agréable. Eh bien, on a cette assurance-là que finalement, même dans des temps de détresse, quand bien même des personnes à côté de nous pourraient en subir même des conséquences, nous, on ne sera pas touchés. C'est ce que dit ce psaume. Pourquoi ? Parce que le chrétien, il vit dans un repos qui n'est pas normal. C'est pas humain, ce repos-là. C'est pas humain, cette paix. Alors qu'on devrait normalement s'inquiéter. C'est pas humain, c'est divin. Et il n'y a que Dieu qui peut nous donner cette paix-là. Alors que ça souffle bien, ça souffle fort. On devrait être inquiété, on devrait être mort de trouille. Et pourtant, ça ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est engagé à être avec nous au milieu même de la détresse. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Et ce verset prend forme littéralement, où un des noms même du Seigneur, c'était quoi ? Emmanuel, qui veut dire quoi ? Dieu avec nous. N'a-t-il pas vécu une grande détresse quand il a dû aller jusque sur le bois du calvaire ? Pourquoi est-il allé là ? Pourquoi a-t-il fallu que le Seigneur, eh bien, aille jusque sur le bois du calvaire ? Mais parce qu'il fallait qu'au sein même de la détresse humaine, parce que l'humanité entière était dans une grande détresse, l'humanité tout entière était dans un grand danger, à cause de quoi ? De ce qu'on appelle le péché. Et si les choses en étaient restées là, l'homme, au sens, je dirais, le genre humain, n'avait pas d'autre destination que de périr à cause du péché et de périr avec le péché. Parce que le péché est en nous, il est dans notre nature, on ne peut pas s'en débarrasser, comme un tissu collant qu'on n'arrive pas à... On a beau secouer la main, ça reste dessus. Ça vous est déjà arrivé, ça ? Le petit bout de scotch qui est sur votre doigt, puis vous voulez vous en séparer juste en secouant la main, il n'y a rien à faire, hein. Si vous ne l'enlevez pas, il va rester collé. Mais le péché, c'est ça. Le péché, on a beau essayer de se secouer comme on veut, ça restera collé. L'humanité est en danger à cause de ça. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire ? Dieu, le Tout-Puissant, celui qu'on a lu au verset premier, celui qui est notre abri, qu'est-ce qu'il vient faire ? Il vient parmi les hommes, dans leur détresse, mourir au milieu d'eux, insulté par eux, alors que lui n'avait jamais rien commis de mal. Il n'avait jamais péché, et pourtant lui, il est mort à la croix. Il est mort à la croix, au milieu des hommes, parmi eux, rejeté par eux. Et finalement, le troisième jour, il est ressuscité. Ce qui nous donne un accès auprès du Père, et finalement, ce qui est arrivé, dans le fait que le Seigneur a quitté sa gloire pour se faire serviteur au milieu de nous, aller jusqu'à mourir pour nous sur la croix du calvaire. Il a ouvert un accès au refuge. Il a ouvert un accès au refuge. Et c'est ainsi que ce psaume que nous venons de lire peut vraiment prendre vie. Il prend vie. Quand celui qui décide dans son fort intérieur de se réconcilier avec Dieu, eh bien, il s'approche de Dieu simplement. S'il ne le connaît pas, eh bien, dans une simple prière, celui qui cherche Dieu, la Bible dit que Dieu se mettra sur sa route. Et celui qui cherche Dieu, à un moment donné, il doit comprendre que si Dieu existe, il suffit d'être logique. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas Dieu, mais qui serait prêt à en accepter l'existence, il va raisonner logiquement. Il va se dire, mais si Dieu existe, vraiment en tant que Dieu, si un Dieu existe, forcément, eh bien, il doit entendre. Sinon, ce n'est pas Dieu. Si moi, je peux entendre, je peux entendre, je monte mes yeux. Si moi, je peux entendre, moi qui ne suis pas Dieu, si Dieu existe, forcément, il entend. C'est obligé. Tout ce que je peux faire, il peut le faire. Si moi, je vois, alors lui, il voit. Si moi, je ressens, mais forcément, si Dieu existe, il doit pouvoir ressentir. Si moi, je suis capable d'aimer, Dieu est forcément capable d'aimer. Et de quelle manière le prouve-t-il ? En envoyant son Fils unique sur la croix du calvaire. Si Dieu existe, il doit être juste aussi. Ça veut donc dire que si moi, je suis capable d'être juste quand j'éduque mes enfants, ça veut dire que si Dieu existe, eh bien, il va être juste avec les hommes. Mais la justice de Dieu, elle est assez surprenante. Parce qu'il ne fait que respecter notre propre choix. Celui qui décide de rester en danger, eh bien, il périra du danger dans lequel il se place. Ici, ce psaume 91 nous parle d'un refuge, nous parle d'un abri. Et ça peut se comprendre dans ce contexte-là, parce qu'il pouvait y avoir des situations compliquées. Mais après, on peut simplement imaginer des bêtes féroces, dans le contexte du psaume. Celui qui ne va pas à l'abri, la palisse le dirait. Celui qui ne va pas se réfugier à l'abri, qu'est-ce qu'il fait ? Mais il reste en danger, on est d'accord. Donc finalement, est-ce que la personne va périr parce qu'il va être puni de ne pas être, de pas avoir été à l'abri ? Non ! Il périt de quoi ? De ne pas s'être réfugié. Il périt de son propre choix. Le Seigneur nous invite. Il nous invite tout simplement à venir à l'abri. Maintenant, la justice de Dieu, c'est quoi ? C'est de respecter notre choix. Il nous avertit d'un danger. Si tu ne vas pas à l'abri, si tu ne te réconcilies pas avec Dieu, alors tu cours de grands risques. Tu cours de grands risques. Parce que c'est de ton vivant qu'il te faut te positionner quant à ton éternité. Et le choix que tu vas faire là maintenant va influer sur ta vie. Parce que tu décides, oui ou non, de rester dans une situation, dans une position où tu es en danger, ou alors de venir te réfugier à l'abri de celui qui a tant donné pour toi, de celui qui est venu parmi les hommes pour vivre la détresse, pour souffrir. Jésus est venu sur la terre une première fois pour souffrir parmi nous, parce qu'il nous aimait. Bientôt, il reviendra une deuxième fois, mais là, il ne reviendra pas pour souffrir. Par contre, il y en a qui vont souffrir de leur mauvais choix. Ils vont souffrir. Vous savez, quand ça arrive à tout le monde, ça vous est déjà arrivé peut-être, ce sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Des fois, ça pourrait être, je ne sais pas, des opportunités, par exemple. Une opportunité professionnelle où on s'est dit « Ah mince, j'avais pris la peine, eh bien j'aurais eu le poste et je ne l'ai pas. » Et les regrets, là, ils tournent pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Des fois, ça tourne. Rien que ça, ce sentiment-là d'être passé à côté, vraiment, d'une opportunité. Ici, ce sera pareil avec Dieu. On a tous cette même opportunité d'aller à l'abri. Et celui ou celle qui résiste à Dieu, qui va faire son choix de ne pas aller s'abriter, de rester finalement en danger, eh bien, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Il ne sera pas sur la cape d'une punition. Ce ne sera pas une punition qu'il va subir. C'est une simple conséquence du fait qu'il n'a pas écouté. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et le cœur de l'homme est ainsi fait. Par orgueil, il est prêt des fois à braver le danger plutôt que de reconnaître son besoin d'être aidé, son besoin d'être épaulé, son besoin d'être en sécurité et que quelqu'un d'autre vienne s'occuper parce que l'homme est ainsi fait. Il aime bien être autonome, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de se débrouiller tout seul. Mais Dieu nous propose de nous abriter. Il nous propose de faire en sorte que nous soyons en sécurité. Dieu nous propose que nous n'ayons pas besoin de nous inquiéter parce qu'il nous promet qu'il s'occupera de nous. Est-ce qu'on le croit ou pas? C'est là, finalement, la question. Si je crois ce qui est écrit, alors je me mets à l'abri. Alors, je vais peut-être avoir une démarche de dire, Seigneur, c'est vrai. Tu veux m'abriter, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Et là, on s'approche de la porte, on commence à frapper à la porte. Seigneur, j'aimerais bien rentrer. Oui, mais il y a ça et ça et ça. Seigneur, pardonne-moi, c'est vrai, tu as raison. Je réalise que ce que je suis, c'est pas bien. Je ne mérite pas d'ailleurs de rentrer. Mais tu es bon et je sais que tu veux m'accueillir, parce que tu m'aimes tel que je suis. Et surtout, je sais que le Seigneur Jésus est mort à cause de ça. S'il te plaît, fais-moi rentrer. Et là, la porte, elle est ouverte. Il suffit de rentrer. Mais avec ce cœur repentant, ce cœur sincère devant Dieu. Et l'abri est là. Le Seigneur ne demande qu'à ce que nous allions à l'abri. Il ne demande que ce que nous soyons en sécurité. Mais c'est nous qui allons nous placer en sécurité. Ou c'est nous qui allons choisir de rester en danger. La question est là. Qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce qu'on va se mettre sous l'abri de Dieu, dans cette forteresse qui nous permet de vivre nos journées dans une vraie situation de repos, quand bien même la fournaise est là, comme on l'a lu, je serai avec lui dans la détresse. C'est pas une belle promesse, ça, que de savoir que dans un temps que je peux traverser qui est difficile, Dieu s'engage par sa parole à être à mes côtés et à le traverser avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est David qui écrit ces paroles, mais c'est vécu ce qu'il dit. C'est vécu. Et tous les jours, ce n'est pas une formule poétique. C'est réfléchi. Ça veut dire qu'il y a des jours où il fait beau, et il y a des jours où il fait moins beau. Et David dit qu'il sait que Dieu sera avec lui tous les jours. Tous les jours. Les jours où ça va bien, les jours où ça va moins bien, il y a un vrai refuge en celui qui accepte de se réfugier auprès de Dieu. Est-ce que nous le voulons? C'est ça la question. Est-ce que nous le voulons? On va se recueillir quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que dans ta parole, nous y voyons vraiment ton amour. Nous y voyons à quel point tu ne désires pas que nous restions en danger, que nous en allions jusqu'à subir les mauvaises conséquences de nos mauvais choix. Mais tu nous avertis du danger, parce que tu nous aimes. Seigneur, sommes heureux de voir à quel point dans ta parole, on y voit des paroles pleines d'amour et de grâce, des paroles qui nous supplient de réfléchir, pour que nous puissions nous placer sous ta main protectrice. Merci Seigneur pour toutes ces paroles. On y voit vraiment, on comprend, vraiment on comprend à quel point tu nous aimes. Quand bien même nous sommes dans le péché, quand bien même nous avons fait des mauvais choix dans notre vie, tu nous dis que tout a été payé parce que tu es mort sur la croix du calvaire. Et qu'encore une fois, tu nous tends la main pour que nous puissions sortir de nos mauvais raisonnements, de nos mauvaises situations. Non pas que la détresse va prendre fin, mais tu désires venir à nos côtés pour nous aider à traverser ces moments. Et ça change tout. Ça change tout parce que tu es avec nous, tu es à nos côtés. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que personne, cet après-midi, par son mauvais choix, par son orgueil ou autre, Seigneur, décide et crois l'ennemi qu'il a tout à perdre à vouloir revenir sur ses décisions. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que personne cet après-midi ne se prive de cet abri solide et sûr qu'il y a auprès de toi. Merci, Seigneur, parce que tu t'engages. Malgré le fait que nous sommes infidèles, toi, tu demeures fidèle dans ton engagement et tu t'engages solennellement à traverser chacun des moments difficiles avec nous. Oui, Seigneur, nous voulons grandir à tes côtés. Et je te prie pour que chacun puisse le vivre lui-même, Seigneur. Oui, tu veux intervenir dans nos vies. Parce que tu es Dieu, tu ne t'occupes pas que des choses grandes de ce monde, mais tu nous prouves encore que tu es Dieu parce que tu t'occupes des choses petites de ce monde et nous en sommes partis. Merci Seigneur, parce que tu viens jusque parmi nous, dans nos vies individuelles, et tu nous accompagnes. Merci pour ta grâce, pour tes bienfaits. Je te dis merci Seigneur. Amen.